RMC Running,
Amin Mohamed.
Bonjour à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Je suis toujours en compagnie de Yoann Durand, le meilleur coach trail, futur trailer.
Salut à tous, Amin. Bon, salut à tous, salut Amin. Bah écoute, ça roule. Hein.
On vient de vivre un moment d'histoire là.
Un moment d'histoire. Premier homme sous. C'est pas le premier homme sur la Lune, c'est le premier homme à moins de 19h au. À l'UTMB,
sur les 100 miles.
Bravo, Ben Diman.
De 18h et 16 minutes.
Il était pressé de rentrer. Hein.
Oh, vraiment.
Ah, il est parti hier soir sous la pluie. Il s'est dit, il faut vite que je revienne. Et du coup, il est arrivé à l'heure de la sieste. Impeccable.
Incroyable. Notre Français Baptiste Chassagne finit juste derrière. En moins de 19h également.
Très belle deuxième place. Ouais, c'est fort.
Magnifique. On va débriefer tout ça.
Les chronos sont dingues. Hein.
Et la thématique du jour, justement, c'est la densification du haut niveau. Comment expliquer ces performances toujours aussi folles dans le trail, ultra trail, et plus globalement dans le sport en général. Et pour ça, eh bien, écoutez, j'ai deux athlètes de très haut niveau. Pour commencer, on a Candice Fertin-Bacon, vainqueur du 90 km du Marathon du Mont-Blanc cette année. Et j'ai également Mathieu Delpech en plateau, 9e de la CCC cette année. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est l'heure de parler performance ici à l'UTMB au Cap Mont-Blanc. Je vais faire l'appel. J'ai à mes côtés Mathieu Delpech. Comment tu vas ?
Présent, tout va bien. Et forcément, les jambes sont un peu fatiguées après la belle bambée qu'on a fait hier. Mais comme c'est une
petite
course qui a réussi, souvent on récupère mieux quand même.
Une balade de 10 heures.
Exactement.
Et mais écoutez, on va.
Belle 9e place.
Belle 9e place également. Donc bravo à tous. Vous étiez 4 Français sur les top 10 à la CCC. C'est quand même assez exceptionnel.
Belle densité. On a une belle génération, en tout cas, c'est clair.
À ma gauche, également Candice. Comment ça va ?
Salut, ouais, ça va bien, du beau spectacle, c'est un plaisir. Ouais.
En spectateur cette semaine ?
Ouais, exactement, encouragé et regardé, et bah, toujours aussi passionnant.
Tu as pu voir les belles performances françaises notamment, ouais. C'était assez fou.
Carrément.
18h, 19, 18 pour Ben Diman. Est-ce qu'on imaginait un jour voir un homme finir sous la barre des 19h ? C'était déjà assez stratosphérique de faire 19h.
De moins de 20h déjà, ouais. Il y a quelques années, c'était déjà strato.
Mathieu ?
Non, c'était dur à imaginer il y a quelques années. Après, on voit l'évolution folle du trail. Donc, c'est sûr que. Puis après, il faut comparer ce qui est comparable. Les parcours sont jamais les mêmes d'une édition à l'autre. La météo influence énormément sur les sports d'ultra-endurance, les capacités à aller vite. Mais là, c'est clair que. Il y a quand même un sacré gap avant. Passer sous les 20h, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main ceux qui l'ont déjà fait. Mmh. Et là, retrancher, je pense, une heure sur des conditions équivalentes, c'est vraiment fou.
C'est fou. Candice ?
La densité aussi, qui pousse à baisser toujours les chronos, c'est-à-dire qu'on l'a vu avec l'arrivée de Baptiste Chassagne et du troisième Kyle Bobson, ça se joue à moins d'une minute, c'est incroyable en fait. Et du coup, forcément, les chronos baissent, plus la densité augmente et plus les chronos sont stratosphériques.
C'est incroyable, moi j'étais fasciné à la vitesse par laquelle les gars finissent aussi. Baptiste, il était. Il y avait une bataille pour la deuxième et troisième place.
Il y avait une bataille pour la deuxième
Caleb,
et troisième place.
Il finit quasiment au sprint.
Il fallait pas ralentir.
Après 100 miles, c'est quand même fou. Quoi. Les gars arrivent à retrouver des ressources physiques et mentales pour arriver à finir aussi fort.
Là, c'est des machines de guerre. C'est des véritables Formule 1. En plus, c'est des gars qui maintenant courent vite aussi sur des distances inférieures, aussi même sur la route. Mmh. On le voit. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra échanger au cours de ce podcast. Mais les chronos maintenant sont barjots parce que même on discutait un petit peu en off. Il y a eu des petits aménagements liés à la météo, mais ça vaudrait quasiment un 19h, un peu moins de 19h sur un parcours classique. Donc on se rappelle quand il y a 2-3 ans, quand Kylian et Mathieu font moins de 20h, c'était déjà monstrueux. Et donc ça revient à ce sujet sur la densification, le fait que tout le monde pousse un peu le milieu du trail à se professionnaliser, à s'améliorer, et du coup ça pousse les performances, ouais.
On peut le voir aussi avec l'OCC chez les féminines. Mmh. Ça s'est terminé en 3 secondes entre la première et la deuxième. Enfin,
un sprint, c'est du jamais vu.
Incroyable ce spectacle.
Enfin, c'est du jamais vu.
Sur le format 50 km.
Oui, exactement, sur le format 60. Ouais, du coup.
Ce qui est assez fou également, c'est que sur cette course, notamment ici à l'UTMB Mont-Blanc, on a 18h et 19 minutes de course. Bayard de 19h cassé. Sur marathon également, on a eu la barre des 2h qui a été brisée cette année. En cyclisme, on a des records de col, notamment sur le Tour de France cette année. Globalement, dans le milieu du sport, les progrès scientifiques, les progrès en équipement permettent ce genre de performance, Mathieu.
Ouais, c'est sûr que c'est une combinaison de facteurs et les sciences de l'entraînement évoluent vite, soit autour de la nutrition, au niveau de l'entraînement, être dans les bonnes zones, tout mesurer, tout contrôler, plus l'évolution du matériel. Donc tout ça combiné, ça fait qu'on cherche toujours plus et pour l'instant ça continue de marcher.
Exactement. On va parler un peu de ta course. À présent, tu as fini 9e de la CCC. Comment tu t'es senti? On le disait tout à l'heure, tu as eu 3 camarades français sur le top 10, sur une course assez exigeante, avec des conditions météorologiques très compliquées, avec un tracé de compétition qui a été réévalué à 2 reprises avant et pendant la compétition. Ça fait mal au crâne.
Il a fallu faire preuve de pas mal d'adaptation pour s'adapter, mais c'est aussi pour ça que j'aime le long, c'est qu'il faut savoir, gérer plein de facteurs, il faut savoir bien gérer son matériel, bien savoir quand mettre sa veste, quand sortir ses bâtons, adapter sa nutrition, et là on a dû le faire vraiment en direct en fonction des moments où il faisait le plus froid, et puis la veille de la course, on nous annonce déjà un changement de parcours, et à nouveau pendant la course, on nous annonce que la fin est modifiée, donc... Sur les dernières 2 heures de course, on court, mais en fait, on ne sait pas quelle est la distance de la dernière bosse.
Tu ne connaissais pas, toi. Ouais.
Et donc là, il faut vraiment être vigilant sur le balisage parce qu'on ne peut plus suivre notre trace. Donc vraiment, ouais, l'adaptation, c'était le maître mot. J'ai dû aussi m'adapter aux sensations du jour et être patient au début, attendre que ça revienne. Et j'ai fait un dernier tiers de course, je pense, très très solide. J'ai fait une première petite analyse des chronos de triangle jusqu'à l'arrivée. Je crois que c'est moi qui fais le meilleur chrono. Donc je me suis vraiment senti bien sur la fin et j'étais... Moi, j'avais l'arme pour aller chercher ce top 10. Ça fait des années que je venais le chercher à Cham et j'avais jamais réussi. Donc là, ça fait trop plaisir.
Tu as eu un titre de champion de France de trail long
notamment. Non, j'ai fait 5e. J'étais allé au championnat du monde avec l'équipe de France. Et ça, c'était un bon souvenir. On a fait champion du monde par équipe. Bon, moi, j'ai pas trop servi dans l'équipe, mais monter sur ce podium des championnats du monde, c'est incroyable.
Mais c'est pas évident en course d'apprendre comme ça ces changements. Tu l'as appris avec ton coach sur un ravitaillement.
Ouais, quand on arrive à la foulie, donc ça c'est kilomètre 40, il y a tous les spectateurs qu'on connaissait, ils nous ont dit ouais, la attention, fin va être modifiée, vous montez pas la flégère.
Et toi, comme t'es pas d'ici, tu connais pas.
J'avais une idée, mais je connaissais pas par cœur. Et quand on est au fight, on arrive à 3 dans une minute, c'est important de savoir où on va passer à la fin. Ouais. Et là, j'ai juste pris un gel en plus en me disant bon, mais au moins je suis prêt si jamais. Mais après, c'est l'improvisation. Et puis, on voit Chamonix qui se rapproche, mais on ne sait pas exactement.
Ouais. Puis, vous ont rajouté 8 bornes.
Ouais, du coup, ça fait une belle balade. Et malgré ça, on a quand même fait des chronos canons. Donc, ça montre que cette année, ça allait très vite.
8 bornes, c'est à peu près 1 heure de course à ce niveau-là.
C'est pas rien. Il faut, quand tu pars mentalement, il faut avoir les gels sur soi. Il faut être prêt mentalement. Et puis, surtout, avoir tout ce qu'il faut en termes de ravito pour tenir justement cet effort supplémentaire. Ouais.
Puis, quand tu pars pour. Une petite dizaine d'heures et qu'à la fin t'as une grosse dizaine d'heures de course, et ça fait la différence mentalement.
Puis surtout que la météo était, il faut le rappeler, mais la météo, vous avez pas été gâté hier. Entre le moment de la ligne de départ où vous avez pris la flotte et toute la journée, la pluie, et puis en haut des cols, les passages, c'était. Quand on te dit t'as 8 bornes de plus et 200 mètres de dénivelé en plus.
Ouais, le plus compliqué, je pense, la pluie, c'est sur la ligne de départ où il faut qu'on attende une demi-heure dans le sas. Et là, à part mettre ta veste, tu peux pas trop bouger, tu peux pas te réchauffer. Après, une fois en course, moi ça me dérange moins. Moi j'ai grandi dans le Cantal et des fois on a des conditions complexes dans nos montagnes. Et moi, une fois que c'est parti, ça me dérange pas. Juste, je sais qu'il faut mettre la veste en haut pour pas attraper froid. Mais après, une fois qu'on court, qu'il pleuve pas, franchement, quand t'es dans ta course, c'est pareil pour tout le monde. Et t'avances. Et justement, le fait qu'il pleuve et que le temps soit frais, ça permet de pas trop monter en température. Et ça, c'est vraiment bien pour continuer de courir vite parce que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui pète quand il fait chaud parce que les corps ils montent et après le cerveau il fait stop. La température interne est trop haute, on va se protéger, on se met à l'arrêt. Donc ça fait un paramètre en moins à gérer quand il fait frais. Et ça, c'était bien hier.
On va parler un peu de philosophie d'entraînement, justement, pour essayer d'expliquer tous ces facteurs de performance qui vous permettent de progresser. Dans le trail long, notamment, on a tendance à penser qu'il faut en faire plus pour mieux progresser. Est-ce que finalement, mieux s'entraîner, ça passe aussi par moins s'entraîner, paradoxalement, Mathieu?
Et quand on fait du long, il faut quand même en faire beaucoup. Ouais. Après, forcément, si on fait la course toujours plus,
il y a des risques de blessure.
Il y a aussi du négatif qui vient avec ça. Et moi, quand j'ai décidé de me consacrer à 100% au trail, j'ai sûrement fait l'erreur d'avoir trop de temps libre. Même si on sait, on se dit, je suis professionnel, il faut que j'aille m'entraîner. Et là, depuis 2 ans, j'ai trouvé un bon équilibre et c'est sûr que j'en fais un petit peu moins. Mais par contre, ça fait 2 ans que j'ai de la continuité à l'entraînement, que j'ai eu aucune blessure qui m'a stoppé sur des longues périodes.
C'est le plus important.
C'est ça qui fait que là, à la fin de 10 heures de course, j'ai pas mal aux cuisses et qu'en ayant pu m'entraîner de façon continue sur 2 ans, franchement, le corps il s'adapte. Les courses, tu récupères, ça te fait progresser et ça te détruit pas complètement. Donc c'est sûr que c'est toujours une question d'équilibre. En fait, c'est comme dans tous les entraînements.
Candice, on le disait en préambule, vainqueur donc des 90 km du marathon du Mont Blanc, vainqueur également l'année dernière du Verbier Marathon. Quelle est ta philosophie d'entraînement? Comment tu ajustes ton emploi du temps? Quel est, on dit vulgairement en route, combien d'heures tu fais? Combien de kilomètres tu fais? Comment tu t'organises justement?
Moi, pour le coup, je suis quand même beaucoup au ressenti.
Ouais.
Mais je croise énormément. C'est-à-dire que l'hiver, 80% de mon volume, c'est en ski alpinisme. C'est ce qui fait, je pense, que j'arrive à me préserver quand même des blessures, même si j'en ai connu une grosse en 2024, mais c'est encore pour d'autres raisons. Et du coup, en fait, moi, le fait de croiser, je suis convaincue que ça me permet du coup de faire une quantité assez forte en nombre d'heures et de dénivelé notamment, parce que en plus j'habite Chamonix, donc voilà, ça va assez
vite.
Exactement. Mais j'ai appris quand même à garder voilà l'hiver ce 20% de course à pied pour quand même maintenir une mécanique de course, garder de la vitesse également, enfin ou du moins la travailler et qui a un sens aussi pour quand je reviens l'été, voilà une certaine progressivité aussi dans l'entraînement. Et que voilà, on passe pas d'un kilométrage zéro à 100 d'un coup, quoi. On monte vraiment progressivement sur le printemps. Mais voilà, le sport croisé, moi, ça fait vraiment partie de, pour le coup, d'un solde de performance, enfin, qui me permet de performer, que ce soit à vélo ou à ski. Bien que, à mon sens, quand même, au bout d'un moment, faut quand même se spécialiser, faire du spécifique. Donc, mais on y va progressivement dans l'année.
À l'approche de la compétition, notamment,
ouais, clairement.
Tu spécifies davantage ton entraînement.
Exactement, c'est-à-dire que par exemple, jusqu'à février, ce sera du ski. Mars, avril, il y aura les deux. Et après, à partir de avril, on passe sur mai, juin, où là, pour le coup, pour le 4 Horizons Blancs, il ne restait plus que de la course à pied, du vélo en récupération.
On a beaucoup entendu d'entraînement croisé cette semaine, notamment sur les trailers et tra-trailers. On a plusieurs profils, des routards, des pistards même. Tout à l'heure, on l'a vu. C'est quelque chose qui revient assez souvent et ça permet aux athlètes de ne pas se blesser, premièrement, et de progresser sur le long terme.
Oui, bah ça fait partie de leur capacité. On le voit, on le sait. Même pourquoi les triathlètes sont aussi forts aussi quand ils viennent sur de la course et ils sont capables de courir 28-30 ou 29-0 pour les meilleurs triathlètes, c'est parce que leur volume fait en natation et en vélo leur permet d'être suffisamment costaud avec le peu de courses qu'ils font. Ils s'entraînent beaucoup moins en course à pied. Après, il leur manque le spécifique pour pouvoir matcher avec les meilleurs français sur des 27 minutes ou 27-30. Mais sur les qualités d'endurance pure, le fait de faire ces sorties en vélo sur un sport porté qui n'est pas du tout traumatisant leur permet après d'avoir des capacités en course à pied. Et là, c'est pareil pour les trailers ou ultra-trailers. Le fait de faire des sorties en vélo ou en ski alpinisme tout l'hiver leur permet de sortir là avec une caisse de dingue et d'avoir des heures et des heures sans la contrainte musculaire des chocs. Et derrière, après, il suffit juste de le mettre un petit peu en place, de le travailler, de faire la période de renforcement nécessaire. Et puis après, t'es suffisamment costaud d'un point de vue physio pour tenir toute la saison et tenir les longues distances. Ouais.
Tout à l'heure, Mathieu parlait de son passage chez les pros et qui lui a donné beaucoup de temps également pour s'entraîner. C'est aussi l'évolution du trail permet aussi aux athlètes de se consacrer professionnellement et intégralement à leur sport.
Oui, ah bah ça te permet de partir en stage, ça te permet de pouvoir récupérer. On le sait très bien, la différence entre un athlète qui va s'entraîner de la même façon et entre celui qui va pouvoir faire la sieste entre midi et deux, faire ses étirements, faire son abdogainage et celui qui doit aller travailler 35 heures par semaine, bah c'est pas du tout la même capacité de récupération. Donc le fait d'être professionnel, ouais, c'est ça, ça te permet vraiment de pouvoir bien travailler, de partir en stage, de pouvoir venir ici faire des rocos, des stages en altitude, des choses comme ça. Donc, et ça, c'est grâce à la densification du trail et à la professionnalisation aux marques que c'est possible. Et c'est ce qui amène les chronos d'aujourd'hui. Ouais.
On parle performance dans les levées de performance et aussi la nutrition qui joue un énorme rôle. Est-ce que vous avez vu dans votre quotidien une accentuation de l'effort sur la nutrition?
Oui, clairement. Moi, suite à ma blessure, j'ai beaucoup travaillé ça parce que je m'alimentais très peu à l'effort. Et j'ai vu un game changer énorme sur surtout la récupération après. Et même pendant, en fait.
Après tes entraînements, ouais.
Après mes entraînements, mais aussi pendant, bien sûr. Hein. Par exemple, le 4 ans du Mont Blanc, j'ai eu aucun coup de mou alors que ça reste quand même 12 heures d'effort. Et j'étais. Parce que je me suis vraiment forcée à m'alimenter. Mais par contre, je m'entraîne maintenant depuis 2 ans à m'alimenter à l'effort et j'ai augmenté le grammage au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai pas pu passer de 40 à 90
non.
Et après, on l'ajuste aussi en fonction de la météo. Enfin, c'est un levier énorme de performance à mon sens, à la fois sur la nutrition et l'effort, mais aussi au quotidien. Avec toujours penser à l'apport en protéines, glucides. Et comme on le dit, le fait de devenir aussi professionnel, on fait les choses bien. C'est-à-dire qu'on a le temps aussi de bien faire à manger, de bien s'alimenter. Et ça joue énormément sur la performance, du coup.
Vous êtes conseillé là-dessus? À quel point tu es encadré sur la nutrition, la préparation?
Il me semble qu'avec Mathieu, on a été suivi par le même micronutritionniste.
Ah.
Et du coup, moi, voilà, j'ai été accompagnée justement pour comprendre en fait comment le corps fonctionne. Et puis bah, maintenant, j'ai les clés en main. J'hésite pas à lui poser des questions si je sens qu'il y a besoin. Mais voilà, ouais, j'ai été accompagnée parce que ça se fait pas tout
c'est
seul.
C'est pas tout seul, ouais.
Ouais, clairement.
C'est pas naturel.
Mathieu aussi?
Ouais, il y a un des gros enjeux sur des sports au volume comme ça, c'est vraiment d'arriver à couvrir ses besoins en calories. Donc les micronutriments, c'est un deuxième enjeu, mais pour moi, la base, c'est vraiment de manger assez en termes de calories. Après, dans ces calories, on peut essayer de se concentrer sur les macros pour avoir suffisamment de protéines et suffisamment de glucides pour l'entraînement. Et ça, ouais, c'est vraiment le point clé, et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années. On s'est rendu compte à quel point on pouvait dépenser quand on va courir 3-4 heures en montagne. Sur les grosses semaines de stage, le plus dur en fait pour assimiler l'entraînement, c'est de manger assez. Quoi. C'est vraiment un challenge au niveau digestif. Quand on part longtemps, après la fenêtre où on peut vraiment recharger beaucoup, elle est réduite. Et cet été, je l'ai beaucoup suivi. Moi, j'ai pendant tout l'été sur ma prépa CCC, je rentrais tout ce que je mangeais dans une appli pour essayer vraiment de quantifier. Je comparais ça avec les dépenses estimées. Et ouais, je me suis rendu compte que sur les grosses journées, c'est vraiment dur de combler. Et c'est quelque chose qui, ces dernières années aussi, a beaucoup évolué. On a pris conscience qu'il fallait s'alimenter à l'entraînement, qu'il fallait s'alimenter bien autour. Et je pense que ça aussi, ça a aidé beaucoup de personnes à aller plus vite.
Pendant l'effort, on parlait aussi d'électrolytes aussi. C'est quelque chose dans lequel...
Ouais, c'est important de couvrir les pertes en sodium. Ouais. Après, c'est souvent très dur de les courir en intégralité, mais c'est bien d'avoir au minimum 300-500 mg de sodium par heure quand on court et qu'on transpire. Quoi.
Et c'est important vraiment de le tester aussi en amont, ouais. Et les jours de course aussi, voilà, les électrolytes, les prendre avant. Voilà.
Mais ça fait partie de l'évolution de la nutrition. À l'époque, c'est vrai que tu partais, tu mettais un sandwich dans le sac à dos presque, il y a 10 ans de ça, c'était un peu ça, on va pas se mentir. Et sur marathon, c'était pareil, on n'avait pas ce grammage. Aujourd'hui, on voit.
C'est très précis sur
le grammage. Chacun sait à peu près ce qu'il peut tolérer au maximum, parce que tu fais des tests à l'entraînement, bien évidemment. C'est ultra important de tout tester à l'entraînement, on le répète jamais assez. Mais voilà, normalement, chaque athlète doit être capable de dire, voilà, moi je peux tolérer 60 grammes par heure, je fonctionne avec ça me correspond bien. Et tout ça, ça fait partie de... Ça revient un peu à l'épisode des data qu'on avait fait avec Joseph, mais tout ça, ça s'imbrique dans une logique de construction de haut niveau, mais qui peut aussi être, et qui est importante de vulgariser pour monsieur et madame tout le monde, pour pas que les gens prennent conscience qu'on ne fait pas un ultra ou un trail de 60 ou de 80 ou plus, en partant avec une flasque d'eau et un demi-gel, tu vois, et un saucisson. Tout est précis, ouais.
On a beaucoup parlé d'équipement également pour expliquer les augmentations de performance, notamment sur route.
Ah, sur route, les chaussures.
L'arrivée des chaussures carbone.
Exactement. A
fait exploser les performances. Sur route, en 2018, on avait 30-40 athlètes qui passaient sous les sub-30. Aujourd'hui, on en a 300-400 selon les derniers chiffres de la FFA.
C'est ça, ouais.
C'est assez énorme. Est-ce que vous aussi, sur trail, l'évolution des équipements, des chaussures, des bâtons, vous ont permis de justement progresser et atteindre le très haut niveau, Candice?
Alors au niveau des chaussures, c'est vrai que moi je suis vraiment typée trail et très peu route. Du coup, j'utilise pas les chaussures carbone, bien qu'on en ait aussi. Je privilégie plutôt le confort aussi, parce que en fait, je me rends compte qu'avec le confort, j'ai une meilleure économie de course. Enfin voilà, je serais bien aussi. Mais oui, au niveau matériel, entre les sacs d'hydratation, les bâtons de plus en plus light,
tout est léger. Ouais,
tout est léger en fait, et même au niveau des vêtements, en fait, les choses très respirantes. Ou voilà, on voit maintenant des stratégies de cooling quand il fait chaud. On a développé les bandanas pour. Tout est important, en fait, parce que ça amène chaque seconde à les 3 secondes des deux. On peut aller jusque-là.
Un des enjeux du trail, ultra trail, c'est aussi d'être très léger quand on court, parce que forcément, quand on emmène avec soi 5 kilos de matériel, et à la fin, ça pèse. Et donc, gagner 500 grammes, 600 grammes, ça compte, Mathieu?
Ouais, et encore plus au niveau des chaussures, parce que c'est à chaque foulée, il faut lever les pieds. Et il me semble qu'il y avait des études qui disaient que 100 grammes économisés sur une chaussure, c'était l'équivalent d'un kilo dans le sac à dos. Donc maintenant, ouais, les super shoes, il y a eu vraiment un delta de 5-6 ans pour qu'ils arrivent à faire des choses qui soient utilisables dans les chemins et qui soient pas trop qui restent stables pour être utilisées dans les chemins. Mais maintenant, ouais, y a vraiment, ils ont réussi à transférer les mousses et à les rendre suffisamment solides et intégrées dans des chaussures trail, et ça se ressent hein, sur les longs parcours. Je pense que au niveau de l'économie musculaire et tout dans les descentes, on est moins fracassé, et quand on court, bah, quand on enchaîne les heures, à la fin, ça fait une grosse différence.
Ouais, parce que les mousses, pour ceux qui nous écoutent, sur la route, on le voit, elles sont très moelleuses, très molles. Pour ceux qui ont déjà essayé des chaussures à plaque de carbone, on parle en fait. Quand on dit l'évolution technologique des chaussures à plaque de carbone, c'est pas la plaque de carbone, c'est les mousses qui ont tellement évolué. La plaque, elle, c'est juste un truc en plus qui te permet d'avoir un retour d'énergie, mais c'est l'absorption des chocs grâce à la mousse qui fait que tu peux toujours en mettre un petit peu plus sur route. Et effectivement, c'est arrivé sur le trail, mais la problématique de ces chaussures-là, c'est qu'elles sont hyper instables et que les mousses sont tellement molles qu'il a fallu les travailler pour pouvoir avoir une vraie stabilité et adhérence.
Ces chaussures qui sont un peu maximalistes, quand ça commence à partir sur un caillou, en fait, c'est comme être sur des échasses. Quand ça part, c'est impossible à ramener. Et il y a eu beaucoup d'entorses sur le début des chaussures carbone en trail. Et maintenant, ça devient de mieux en mieux. Mais il faut quand même au début s'habituer quand on en met pour la première fois. Parce que nous, à l'époque, c'était comme sur route. On courait avec des toutes petites chaussures près du sol.
Ah bah oui, ça c'était avant 2020.
C'est léger, ça va être bien. Ouais. Et on a eu les mêmes évolutions avec 5-6 ans de retard.
Ouais, 5-6 ans, c'est ce qu'il a fallu pour justement maximiser les performances liées aux équipements. On parle aussi de professionnalisation. Dans la professionnalisation, il y a aussi l'économie du trail, autour du trail qui compte. On a des dotations, notamment $20,000 pour le vainqueur de l'UTMB, puis après c'est assez décrissif. Et pour les épreuves de l'OCC et de la CCC, les vainqueurs gagnent $13,000, et puis après c'est assez dégressif. Vous êtes accompagné, vous, par vos équipementiers respectifs. Ça vous permet également de vivre de ce sport-là et de progresser, faire des stages, et ça aussi, ça compte dans la performance, Candice.
Oui, clairement, ça permet. Moi, clairement, j'ai pu arrêter de travailler à côté. Et comme on disait, c'est tout un socle après, récupération qui permet. Et puis le fait d'être accompagné, on a aussi des managers qui nous conseillent. Enfin, on a encore plus de choses pour élever.
Ça va au-delà du financier, c'est aussi un accompagnement.
Pour moi, ça va au-delà du financier parce qu'on est une équipe. Au moment des stages, on est plusieurs. Enfin, de s'entraîner à plusieurs, quand même, mine de rien, c'est hyper galvanisant. Donc, moi, ça joue.
Vous avez des stages avec votre équipementier en commun, ouais.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Vous vous entraînez ensemble.
Des moments, on fait les recours ensemble. Ouais. Et mine de rien, ça joue quand même.
Ça joue beaucoup l'état d'esprit.
En fait,
l'esprit
finalement,
groupe.
Le trail, on dit que c'est un sport individuel, mais ça reste un sport collectif par justement ces teams qui se créent aussi.
Est-ce que tu as vu un avant-après équipementier, toi, Mathieu?
Moi, je suis entré assez jeune dans les équipes, mais par contre, ce que j'ai vu évoluer, c'est l'accompagnement au sein des équipes. Clairement, au début, c'était des stages. Il n'y avait pas de staff à part une ou deux personnes qui organisaient le truc. Et maintenant, quand on fait des rassemblements, on a une équipe de kiné qui est là, on a un cuistot. Et là, tu t'entraînes, tu rentres, tu as juste à tendre ton assiette, tu manges, tu fais ta sieste. Après, tu as un massage ou tu as des soins si tu as des petits bobos. Et ça, carrément, ça joue sur les regroupements. Ça fait vraiment la différence. Et puis, c'est vraiment tout un écosystème qui est en train de se mettre en place autour de la performance. Et pas juste, on vous donne des produits, on vous rassemble et allez courir. On vous donne des produits, on vous rassemble et on vous donne aussi un maximum de tout ce qu'on peut à côté, des plans de pacing, des conseils sur la nutrition, mettre à disposition le plus d'outils possible. Et ça, c'est vraiment en train d'évoluer aussi, et je pense que ça joue sur les performances.
On le rappelle, Ultra Trail, c'est un sport très très jeune. Ici, le premier événement à l'OKUTM et Mont Blanc, ça a été inauguré en 2003. En athlétisme, le sport, il a une centaine d'années, tu vois. Et ce qu'on peut voir en athlétisme depuis un certain moment, à savoir les équipementiers, à savoir l'accompagnement individualisé pour chacun des athlètes, commence à arriver aussi en trail et ultra trail. Et ça fait partie de la progression logique.
Et même chez les coureurs, on le voit aujourd'hui, c'est une vraie planification de saison. Tout est millimétré. Tu fais plus comme avant. Tu disais, tiens, je vais faire celle-là, celle-là et celle-là. Non, il faut que ça soit dans une logique de construction, de planification, de progressivité, de progression même pour les athlètes. Tu as la prépa physique qui est devenue ultra importante aussi. Tu sens que c'est une vraie professionnalisation, et on le voit aujourd'hui avec tous les chronos de toutes les courses qui ont été presque battues, ou après ça dépend des conditions météo, c'est dur à comparer, mais tu sens que la densité, elle est là, quoi. C'est-à-dire que toutes les courses, ça se joue tout à la bagarre. À part Ben qui est parti tout seul au bout de 30 km parce qu'il s'ennuyait, mais sinon tous les autres c'était assez dingue, ouais.
Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. François Dehn, on l'a reçu en plateau en début de semaine. Il disait, quand il est venu ici à l'OK UTMB Mont Blanc en
2014,
il était quasiment tout seul.
je crois. Ouais.
T'es quasiment tout seul et aujourd'hui vous êtes accompagné de vos équipes, donc forcément ça montre que.
Même
que
pour ça... les ravitaux, pour tout, toute la planification de la course, il n'y a rien qui est laissé au hasard.
Ah bah les tableaux Excel, en métier, voilà.
C'est vrai.
Ah oui, il y a ce qu'il faut en tableau Excel maintenant.
Non. On a aussi l'arrivée de nations africaines également dans ce sport, des Éthiopiens, des Kenyans. On a eu pour la première fois un Kenyan sur un podium d'une finale UTMB World Series, Kiplimo notamment. Ça montre aussi qu'il y a aussi des concurrents de très haut niveau qui viennent historiquement plutôt de la piste, voire de la route, et qui arrivent sur trail, voire ultra trail, et qui concurrencent les Français, les Européens, les Américains qui sont là historiquement, Mathieu.
Ouais, carrément, on le voit de plus en plus, notamment sur un des circuits qui est leader sur les formats courts qui sont les Golden Trail World Series. Là maintenant, toutes les courses, il y a des Kenyans devant, et au début ils avaient du mal à faire la transition, sauf que petit à petit ils ont été accompagnés, ils ont réussi à trouver les bonnes méthodes d'entraînement, et on disait qu'ils passeraient jamais parce qu'ils sont trop fins, parce qu'il faut des qualités musculaires, faut être capable d'encaisser, mais avec l'entraînement ils y arrivent, et c'est sûr que c'est cool de voir cette diversité qui arrive dans notre sport, et je pense que ça va tirer tout le monde vers le haut.
Ça reste sur des formats courts, faut voir sur des plus longs.
60, on n'en a pas vu là sur l'OCC, c'était très solide, mais ouais, pour l'instant c'est pas ils sont pas trop
je sais pas si c'est culturel ou qu'ils ont pas envie d'y aller, je sais pas, j'ai du mal à expliquer pourquoi ils montent pas parce que c'est des gars avec des gros moteurs
Oui.
C'est des moteurs de Ferrari avec des VO2 de dingue, mais effectivement qu'ils montent pas.
Je pense que c'est un des enjeux, je sais pas si c'est l'unique, mais c'est que les ultimes eux quand même l'aspect financier, je pense,
joue
de
beaucoup,
la course à pied est central dans leur pour faire vivre leur famille. Il y a des gros enjeux autour de leur revenu sur la course à pied, et si tu fais un ultra
c'est beaucoup de sacrifices pour t'es pas sûr de réussir,
t'es vraiment pas sûr de réussir, tu peux pas réenchaîner et je pense que ce serait des gros paris pour eux de préparer ça pendant des longues périodes sans pouvoir faire de compétition, et ensuite faire une compétition, et si tu rates c'est pour eux c'est hyper complexe, donc je pense que c'est pour ça. C'est plus facile de rester sur les formats courts où tu peux enchaîner.
Tu peux en faire beaucoup.
Et
ouais.
Que nous, les personnes là qui sont plutôt devant sur les ultra trails, souvent on a plus de sécurité financière, ou on a des activités à côté qui nous permettent de nous développer au début de la carrière. Et pour ces athlètes qui ont pas cette chance là, il faut qu'ils aillent là où ils puissent avoir plus de certitude de revenus. Et je pense que pour l'instant c'est plus
complètement
Ce qui peut aussi expliquer la densification du haut niveau, c'est aussi la perception qu'on a du trail. En début de semaine, on a reçu Dorian Louvet, il m'en voudra pas si je le cite, mais qui disait qu'avant, on avait une vision montagnaire un peu du trailer qui arrive à 40 ans et qui se lance dans un défi sportif, mais pas de manière assez professionnelle. Et puis, ces dernières années, ça a changé. Le trail, l'ultra trail, c'est un sport à part entière avec des équipementiers et une économie autour. Et ça pousse aussi les jeunes coureurs à venir beaucoup, ici sur trail.
Je suis impressionné, par le peloton qui devient de plus en plus jeune. C'est hallucinant le nombre de jeunes de 18-20 ans qui ne sont pas sur des formats encore ultra, mais qui se lancent sur du trail, alors qu'avant effectivement quand t'es jeune t'as envie de faire un truc qui booste un peu, t'as des qualités de vitesse et effectivement quand tu vas sur du trail c'est pas forcément les qualités numéro 1 dont t'as besoin.
Et puis cette semaine on voit la YCC qui est consacrée aux jeunes locaux de la région. On voit également dans la MCC des très jeunes coureurs, et ça aussi forcément quand t'arrives sur trail, ultra trail à 15, 16, 17 ans, à 24 ans t'es déjà en âge de maturité, alors que si tu commences un peu plus tard ça coince un peu plus. Toi, tu es d'accord avec ça, Candice ?
Ouais, carrément. Après, il me semble que Mathieu et moi, on a commencé aussi avec
très jeune,
les YCC. Ouais. Mais après, on a aussi les écoles
faites partie de la génération
qui se créent. Derrière, on crée des clubs de trail, mais dès le plus jeune âge. Donc, je pense que ça va de ça. Après, on le voit, le trail, ça, c'est pas que chez les jeunes. Même sur la population entière de France, le nombre de coureurs maintenant
augmente.
C'est stratosphérique. Depuis l'après-Covid aussi, on a vu un changement.
Et pas que. Effectivement, Dorian, il disait c'était un sport un peu de montagne. Aujourd'hui, t'habites Paris, Bordeaux, Le Mans ou Rennes, t'as des trailers partout. Ouais. Alors après, ils se débrouillent pour pouvoir s'entraîner. Mais
dans mon club, il y a une section trail, alors que Villejuif, c'est peut-être la ville la plus plate d'Île-de-France. Et ils vont à Montmartre, ils cherchent dans les fontaines.
T'as des sections partout. Ça a pris de l'ampleur depuis un peu avant le Covid.
Petite question sur ce que je vais appeler peut-être une dérive. Je sais pas si c'est une dérive, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une pression particulière de vos équipementiers à la performance? Quand je dis vos équipementiers, peut-être pas personnellement, mais de manière globale, parce que qui dit équipementier dit attente.
Qui dit professionnalisme dit à un moment donné.
Et ça peut vous pousser à performer de manière peut-être un peu excessive. Est-ce que parfois vous hésitez à prendre le départ d'une course en fonction de pépins, et au final il faut y aller parce qu'il faut montrer des résultats sur la table?
Ou une certaine pression.
Non, moi je pense que la santé, ça reste l'enjeu numéro un, et c'est ça vraiment qui va guider si on prend le départ ou non. Mais ouais, la réalité, même si nos équipementiers nous disent toujours que c'est ta santé qui prime, fais ce qui est bien pour toi, la réalité c'est que quand c'est ta dernière année de contrat et que tu as raté ton début de saison, même si on te met pas la pression explicitement,
toi tu te la mets, ouais.
Oui, voilà, tu sais que là, si tu sors pas une course, ta valeur en tant qu'athlète. Dans le sport, on a quand même la mémoire courte, et c'est les pertes des 6 derniers mois qui vont servir au moment de renégocier. Et donc, même si c'est jamais mis explicitement, il y a toujours de la bienveillance. La réalité, c'est qu'on signe jamais des contrats ou très rarement des contrats qui font plus que 2-3 ans. Donc, c'est des périodes où il faut renouveler, et à un moment donné, il faut répondre présent, c'est clair.
Ah, c'est...
Bah, là, je suis en plein dedans. Hein. J'ai une tendinite à l'ischio, j'ai pas pu courir à CCC. Je n'aurais pas remporté le 90, je ne serais pas aussi
tu
bien.
Tu serais moins sereine. Ouais, clairement, tu serais pas là à faire la tournée
des
potes.
C'est pas eux qui mettent la pression, c'est juste moi qui me dis, aussi. Bah, en fait, clairement, on sait que c'est quand même précaire, finalement, parce qu'on signe, comme il dit, sur 2-3 ans, c'est pas comme quand on signe un CDI. Et voilà. Donc, on se la met, nous, mais...
et puis on vit avec ça en tant qu'athlète pro. Ouais, quand t'es blessé, t'es pas bien parce que t'as que ça à faire déjà. Et puis tu sais que t'as des gens au-dessus à qui tu dois malgré tout des comptes et des résultats. Et c'est pas toujours facile à vivre. Et quand t'as une vraie blessure, c'est des vrais moments de galère et de doute. Et il faut réussir à sortir de ça pour retrouver des fois la notion de plaisir qui va te ramener, le plaisir va te ramener sur la perf. Et la perf va te ramener un peu de sérénité pour après être bien. Mais c'est pas toujours facile. Hein. C'est un équilibre difficile à trouver. Et effectivement, trouver des marques qui ont conscience que l'athlète, pour performer, a besoin d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, c'est pas toujours le cas. Et ça, c'est un message qu'on peut faire passer s'ils nous écoutent, c'est de malgré tout faire confiance à leurs athlètes quand par moment ils sont un petit peu en galère. Et voilà.
Après, ça fait partie du jeu de l'athlète. Il y a beaucoup d'athlètes qui passent par la blessure, donc ils le savent aussi. Et voilà, je pense que.
Et au-delà des marques, il y a aussi une pression populaire. On est dans un monde de l'instantanéité. Tu parlais tout à l'heure où tu disais, Mathieu, qu'on oublie très vite les performances, notamment sur les réseaux sociaux, où si tu perfs pas, et après, tu as des commentaires, etc. Et vous, forcément, vous mettez une petite pression.
Moi, ça va, là-dessus.
Là-dessus, t'es bien, t'as pas trop de haters.
Voilà,
non. T'as une communauté bienveillante. Bravo.
Petite communauté.
Ah, bah oui, mais bien construite.
Ouais, c'est ça.
C'est sûr, des athlètes qui sont surexposés et qui construisent toute leur communication autour d'une course ou qui vendent des perfs qui sont pas encore arrivés. Forcément, après, c'est complexe et il y a beaucoup d'exposition à ces moments-là. Mais globalement, si tu rates une course, personne ne va rien te dire. Oui. Ils vont juste féliciter ceux qui réussissent, mais si toi tu rates ta course, on va pas venir te dire. Enfin, il y a quand même beaucoup. Et c'est
là, il y a de la bienveillance quand même. Beaucoup de bienveillance.
Je vais prendre les propos de Mathieu Blanchard tout à l'heure pendant le live track de l'UTMB Mont Blanc.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Et il disait qu'il était impressionné par la perf de Ben. Moins de 19h, c'est stratosphérique, mais il se questionnait un peu à ce qui pousse les athlètes de surperformer sans cesse. Et il se disait que c'est même une question de société. Parce que nous aussi, on a un rôle dans ce qu'on voit. Quand on voit l'ambiance qui est ici et comment est acclamé Ben, forcément, ça pousse les athlètes à performer. Et quitte à se mettre en danger aussi physiquement. Et il posait une question qui m'avait vachement intéressé. C'était, est-ce que nous, en tant que société, on préfère un athlète qui perf une fois moins 19 heures sur UTMB ou le voir courir 20 fois la distance mythique ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Oui, mais c'est vrai. Je pense que, comment il s'appelle ? Eliud Kipchoge a été admiré pour sa longévité. Il a fait des chronos de monstrueux, mais il a été champion olympique. Mais ce qu'on retenait de lui, c'était cette espèce de longévité à haut niveau. Et même aujourd'hui, il court beaucoup moins vite. Mais malgré tout, on voit en lui que c'est un grand champion. Tu as des athlètes kényans qui ont battu des records du monde sur marathon ou sur semi-marathon. One shot. Et tu en as plus entendu parler. Et effectivement, tu as des mecs qui ont couru en 57, des tas d'essais pour les érythrées de mémoire, des choses comme ça. Je pense que ça parle pas du tout au grand public. Et pourtant, ils ont été recordman du monde du semi ou même des fois recordman du monde du marathon. Sur un one shot, tu prends la lumière au moment du truc pendant quelques semaines, quelques mois. C'est très éphémère le sport. Ben, c'est un dieu. Dans le week-end suivant, le week-end prochain, il y a une compétition. Je sais pas plus ce qu'il y a le week-end prochain, mais la Ligue des champions de foot va redémarrer, le machin,
et
truc.
On l'aura oublié en quelque sorte.
C'est terminé, et du coup, il va repartir de zéro. Et donc, effectivement, je pense que quelque part, il vaut mieux avoir une carrière longue et des performances plus que correctes que gagner un one shot. Après, ça, c'est mon avis perso.
Mais tu parlais de Kipchoge, c'est très intéressant. Il a eu le projet avec une marque où il y avait le projet moins de 2 heures sur marathon. Il l'a tenté à plusieurs reprises. Il a réussi pour la deuxième fois. Et ça aussi,
mais il n'a pas fait sur une vraie course.
Mais il n'a pas fait sur une vraie course. Donc, aujourd'hui, il y a un projet qui est créé pour lui permettre de surperformer au-delà de ses limites naturelles qui seraient une compétition homologuée. Et en quelque sorte, alors oui, ça a créé des vocations. Moi, je pense qu'il y a énormément de gamins qui ont commencé à courir parce que Kipchoge avait couru moins de 2 heures. Mais aussi, en tant que société, on essaye de surperformer.
Oui. Mais après, je vais les laisser parler. Mais c'est vrai que nous, sur la route, le nombre de coureurs kényans qui débarquent à 23 ans, 24 ans maintenant, qui font des perfs stratosphériques sur 10, sur semi et sur marathon, et après t'en entends plus parler l'année d'après, il y en a vraiment beaucoup. Et parce que c'est des mecs qui s'entraînent tellement fort pendant 1 an, 2 ans, et qu'après leur carrière elle est un petit peu rincée. Puis peut-être qu'après ils ont pas non plus, on parlait tout à l'heure d'argent, la motivation d'aller se faire mal pendant plusieurs années, parce qu'ils ont pris ça plutôt comme un métier plutôt qu'une passion. Et quand tu fais du sport un métier et non pas une passion, tu dures pas très longtemps, je pense.
Candice, c'est presque une question philosophique, mais est-ce que tu es dans la surperformance? Est-ce que tu serais prête? Alors, c'est compliqué à répondre.
Est-ce que tu signes à gagner une fois l'UTMB?
C'est ça.
À le gagner une fois ou à le faire 10 fois et faire 10 fois top 10?
Ludo Pommeret.
Ah ben voilà.
C'est-à-dire que Ludo Pommeret, avant de réussir,
il a gagné, mais il a fait.
Avant de réussir, il a quand même fait de nombreux abandons. Mais il a 50 ans, il continue de le faire, et là il fait les top 10.
Exactement.
Enfin, ouais, moi je serais une athlète qui serait sur du long terme. Enfin, je préfère être ça qu'une étoile filante et on m'oublie dans 2 ans. Quoi. Enfin, sans dire on m'oublie, hein. C'est-à-dire que je suis passionné de mon sport pour voir le long terme. Et d'où le fait aussi de maintenant qu'une blessure, en fait, faut la gérer, faut la guérir.
Ah oui.
Parce que c'est du long terme, en fait. Donc,
et ne pas se mettre en danger pour aller chercher une performance.
Ouais. Après, bon, il y a danger et danger. Hein. C'est-à-dire que s'il faut tout donner sur la dernière descente, quitte à se botter, on y va. Hein.
Merci à tous les deux, merci Mathieu, merci Candice pour vos retours d'expérience, c'était vraiment exceptionnel, moi j'ai beaucoup apprécié cet épisode.
C'est bien parce qu'ils sont jeunes mais ils ont un vrai regard sur leur discipline.
Et un vrai recul.
En 10 ans on était déjà, en 10 ans je courais la YCC, donc c'est vrai. Le sport évolué.
Merci à tous de nous avoir écoutés, vous pouvez également retrouver cet épisode sur les applications d'écoute digitale et sur notre compte YouTube RMC Running. Il nous reste encore un épisode ici à Chamonix,
le débrief
de la grande course, la légendaire course 100 miles UTMB. Et bien on va vous faire ça.
Demain on va se régaler.
Demain 10h20 enregistrement.
Enregistrement, Ben va venir, Blandine va venir, tout le monde. On aura les champions, c'est sûr.
Excellent.
Et certain.
Et pour finir, toujours le même conseil, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Allez, à demain.